Sujet de ce matin, c'était une commande. J'ai trouvé ça intéressant. La semaine dernière, j'ai reçu par mail un jeune homme qui est venu juste deux, trois fois à notre église, qui m'a posé une question par l'intermédiaire du site. Et puis il me dit « J'aimerais, si tu as un moment, que tu essaies de m'y répondre. » Alors je lui ai répondu par courrier, mais j'ai trouvé que c'était un sujet intéressant. Je dis « Tiens, on pourrait le prendre aussi pour nous. » Et sa question était liée avec « Que faire avec nos échecs dans nos vies ?» Et puis je cite juste une phrase du mail qu'il m'avait envoyé. « J'ai beaucoup de peine à voir et à vivre que l'amour de Dieu est plus grand que mes sentiments d'échec. Que faire face à l'échec? Comment réagir? Comment continuer à croire que Dieu nous aime ?» Et donc, j'ai dû bien sûr y réfléchir pour lui répondre. Et puis en continuant, je trouvais que c'était quelque chose qui était intéressant. Parce qu'il me semble que ça peut être utile pour tout le monde. Si quelqu'un n'a pas besoin de ce message, j'aimerais bien le rencontrer après. Peut-être il a un truc que j'ai pas compris quelque part. Si on regarde un petit peu sur l'origine et puis sur l'étymologie du mot, en tout cas de l'idée, c'est intimement lié encore une fois avec notre histoire dans le jardin d'Éden, avec Adam et Ève. Vous savez que le mot péché dans l'Ancien Testament, en tout cas un des mots principaux, voulait dire manquer le but, rater la cible, ne pas atteindre l'objectif. Donc Adam et Ève ont échoué. Ils avaient été créés pour quelque chose et la flèche qui était partie pour atteindre la cible a dévié et elle s'est plantée ailleurs. Et ça a engendré tout ce qui en a découlé avec le péché qui est entré dans la génétique humaine, qui s'est transmis les uns aux autres jusqu'à nous aujourd'hui. Et c'est probablement une des raisons pour lesquelles c'est un sujet qui est délicat pour nous, parce que, on dirait, c'est inscrit au fond de nous avec le mot péché, et avec le mot échec, par contre, on pense immédiatement, si j'échoue, j'ai péché. Si j'échoue, c'est que j'ai pas fait ce qu'il fallait. Et c'est pas forcément vrai, d'abord qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait, ça on va le voir après. Mais surtout, c'est la première chose pour nous, l'échec n'est pas du tout nécessairement lié au péché pour nous. Ça peut être une conséquence du péché dans le monde, du fait qu'on vive dans un monde imparfait, bien sûr. Mais le fait de ne pas atteindre le but, quel que soit le domaine, n'est pas forcément, et même souvent pas, une conséquence de mon péché personnel. Il y avait un but à atteindre et je ne l'ai pas atteint. Alors c'est vrai que le sujet est très vaste parce que s'il s'agit d'un échec professionnel, d'un échec à un examen, d'un échec au niveau relationnel ou alors d'un échec dans notre marche spirituelle, c'est quand même très différent. Mais il y a des principes qui sont généraux, qui s'appliquent à tous les cas, et c'est un petit peu ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, si j'arrive à parler jusqu'au bout. Donc, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que on ne peut pas vivre sans échec. C'est pas qu'on ne peut pas vivre, mais on ne vit pas sans en avoir. On aimerait vivre sans en avoir, peut-être. Et la première question à se poser, c'est pourquoi je considère cette chose comme un échec? Avant de voir quoi faire avec nos échecs, il y a déjà toute une catégorie qu'il faut éliminer parce que j'ai pas atteint ce but. C'est un échec. Mais qui a fixé ce but? Est-ce que c'était réellement un bon but? Est-ce que c'était ce que j'avais à atteindre? Selon l'endroit où on vit, notre culture, notre environnement, notre éducation, on nous a fixé des buts à atteindre. Aujourd'hui, pour réussir, il faut être célèbre, il faut être connu, il faut avoir une belle voiture, il faut avoir de l'argent, il faut être beau, il faut être mince, il faut être comme ci, il faut être comme ça. Dans ces choses-là, il y a peut-être des choses qui sont effectivement des buts qui sont les miens, mais il y en a toute une quantité que j'ai jamais voulu, que j'ai pas choisi, qui me déplaisent, mais que je pense quand même que je dois atteindre. Et donc, dans ces cas-là, la première question à se poser, mais est-ce que ne pas avoir cette chose-là, ne pas avoir vécu ça, ne pas avoir atteint cette chose-là, est-ce que c'est un échec? Pas forcément. Si c'est pas quelque chose que je pensais devoir atteindre, je l'ai pas. Et peut-être les gens considèrent que c'est un échec. Le regard de mon entourage, de ma famille, des gens qui sont autour de moi, Mais peut-être que pour moi, c'est pas le cas, hein. Et ça, c'est une chose, je crois, qui est très très forte parce qu'on vit dans un système économique où on nous impose des buts à atteindre parce que c'est ce qui fait que ça continue de marcher, hein. Il faut que je consomme plus que l'an dernier, il faut que je désire plus que le mois d'avant, il faut que j'achète plus que ce que j'achetais avant. Et donc, à cause de ça, on nous met sans arrêt des buts à atteindre. Mais je dois, en tant qu'enfant de Dieu, redécouvrir la liberté qui est la mienne. Personne d'autre que Dieu et moi-même ne sont là pour me fixer les buts à atteindre dans la vie. Et je ne dois pas me laisser dicter le but, hein, ce qu'il faut faire, hein, juste parce qu'il y a la pression de ben, tout le monde le fait. Ah ben, dans notre pays, si on n'a pas ça, on n'est pas quelqu'un de bien. Ah mais pourquoi? Ben oui, parce que ça se fait comme ça, parce que derrière il y a des intérêts, parce qu'on l'a toujours fait comme ça, parce qu'il nous semble que. Donc on a d'abord besoin de prendre du temps, de s'arrêter, et puis de dire mais est-ce que c'est réellement un échec? Parce que peut-être non. Si c'est pas une chose que je désirais, ou peut-être je pensais qu'il fallait que je l'atteigne, mais en réalité c'est pas quelque chose qui me fait envie. J'en ai pas besoin personnellement. Je vois pas pourquoi ça serait utile. Et bah, ça va peut-être être difficile parce qu'on va devoir porter le, encore une fois, hein, le poids du regard des autres. Mais j'ai pas à me charger de cette chose-là. Alors je vais pas plus développer ce sujet, mais c'est quelque chose que je vous laisse à méditer parce que c'est on pourrait parler que là-dessus, mais je voulais pas le faire ce matin. Mais je vous le laisse à creuser. Et je crois que pour chacune de nos vies, il y a beaucoup de liberté à trouver, à découvrir, en se posant ces questions. Vous savez, souvent, on nous dit quand on veut décorer ou redécorer une pièce, par exemple, ben ici, ça fait un moment qu'on est ici, puis c'est toujours pareil, hein, et puis on voit plus les choses. Et puis, il faut se poser la question, mais si ce tableau n'était pas là aujourd'hui, est-ce que je le mettrais? Si je peux pas répondre oui, ben il faut l'enlever. Hein? Si c'était pas comme ça, est-ce que je le mettrais? Et s'il n'y avait pas ce truc-là, est-ce que... Ben non. Alors quand on l'a mis, c'était bien. C'était il y a 5 ans maintenant. Hein? Ça correspondait à quelque chose. Aujourd'hui, ça correspond plus à rien. Alors peut-être il faut le changer ou pas. Mais dans nos vies, c'est pareil. Je cours après des choses. Pourquoi? Parce que ben mes amis à l'école couraient après ces choses, mon éducation a fait que je cours après. Mais en fait, est-ce qu'aujourd'hui, je pense que cette chose-là est importante pour ma vie? Est-ce que je la désire? Est-ce qu'elle est bonne pour moi? Est-ce qu'elle a un sens? Est-ce qu'elle va me remplir? Alors, si c'est pas le cas, je cours pas après. Et c'est pas un échec de pas l'avoir. Et je me laisse pas imposer ces choses-là. Et ça, c'est une réflexion qui doit amener beaucoup de simplicité et de légèreté dans nos vies. Parce qu'on va se débarrasser d'un poids qu'on n'a pas à porter. Et puis, tant pis si les gens autour de moi pensent, oh, c'est vraiment, la vie de cet homme, c'est un échec. Regardez, à l'âge qu'il a, il a rien. Il n'a même pas encore acheté sa maison, il n'a pas d'argent en banque, il n'a rien fait de sa vie, il n'a même pas de diplôme. Et alors, si j'ai fait ce que j'avais à faire et que chaque jour je me dis, ben voilà, si je meurs ce soir, je suis content, j'ai fait ce que j'avais à faire aujourd'hui, alors c'est bien. Et c'est pas grave si j'ai pas ce que, hein. Donc ça, c'est la première chose. Il y a toute une catégorie de entre guillemets échecs qu'on nous a collé sur le dos en disant c'est un échec, mais pas forcément. C'est peut-être même un avantage, une libération, une victoire. J'ai pas cette chose-là à atteindre. Maintenant, même si on élimine ça, il reste bien sûr de véritables échecs dans nos vies. Et puis, si je parle un petit peu plus ce matin dans le domaine spirituel, combien de fois on ne s'est pas mis devant Dieu en disant maintenant ça va changer. Là, maintenant, là, hein. Bon, quand on est jeune, on fait ça plutôt au début de l'année, hein. Avec le temps, on s'aperçoit que ça sert à rien. 1er janvier ou pas, c'est pareil. Mais quand même si c'est pas au 1er janvier comme une décision qu'on écrit sur un nouveau cahier, régulièrement on se dit zut, ma vie de prière ça va pas, il faut que hein, mon témoignage ça va pas, il faudrait que mes relations avec les frères ça va pas, il faudrait que. Et puis ouais. Quelque temps après, on fait le constat, ah, j'avais bien commencé et puis ça s'est arrêté. J'avais de bonnes intentions, mais j'ai pas été jusqu'au bout. J'ai échoué. Et puis, dans ces moments-là, qu'est-ce que je fais avec ça? Et c'est là où déjà notre façon de fonctionner en tant qu'être humain, plus le poids du combat spirituel, font que immédiatement, ça va nous ramener à l'idée, c'est un péché. Hein. Tu avais dit que tu l'as pas fait, tu vois. Tu es minable, tu es misérable, tu es encore raté. Puis si les gens savaient que tu n'es pas arrivé, alors là. Hein. Et donc ça nous pousse tous immédiatement dans le réflexe qu'a eu Adam. Hein. Lorsque Dieu vient voir Adam, Adam, tu es où? Pas d'Adam. Alors que normalement, pas d'Adam, mais pas d'attaque. Alors que normalement, tous les jours, ils se rencontraient, ils discutaient ensemble. Hein. Mais là, finalement, il répond, j'ai eu peur, hein, j'ai eu honte parce que je suis nu et je me suis caché. Ça, c'est notre réflexe naturel à tous. Hein. Lorsque je suis en situation d'échec, je me sens mis à nu et je veux me cacher. C'est pas tellement l'échec, mais plutôt le fait que les gens s'aperçoivent que j'ai échoué, hein. Que d'autres sachent que oh, il n'y est pas arrivé. Et ça nous détruit, on se sent hypocrite si on ne le dit pas, si on l'avoue, c'est déshonorant, on ne sait pas comment gérer ça. Et pourtant, si on réfléchit un petit peu, la chose essentielle que Dieu utilise dans nos vies pour nous faire progresser, c'est nos échecs. Alors je ne dis pas que Dieu veut que nous échouions, non, mais ça arrive tout seul, il n'a pas besoin de nous aider pour ça, ça se passe. Mais c'est une des choses qu'il va le plus utiliser pour nous faire aller de l'avant. La Bible est remplie d'exemples d'hommes et de femmes de Dieu qui ont vécu ça. Un des plus connus et des plus faciles à se rappeler, c'est celui de Pierre. Pierre avec le tempérament, le fonceur, le meneur, celui qui a une grande bouche, qui parle, qui pense à haute voix, comme on dit. Hein. Et puis, voilà, il fait pleine de sincérité, sa belle déclaration à Jésus, même si tous t'abandonnaient, moi, jamais, je suis prêt à mourir pour toi. Hein. Puis là, il se sentait bien après l'avoir dit. Hein. Puis, c'est une belle chose de pas vouloir abandonner Jésus-Christ. On peut pas le lui reprocher, quoi. Hein. Et puis, bon, on connaît l'histoire, il renie Jésus 3 fois. Il a honte après ça, il s'en va, il retourne à la pêche, et même la pêche marche pas, quoi. C'est l'échec jusqu'au bout, l'échec de l'échec de l'échec. Même ce qu'il savait faire, hein, il avait quitté la pêche pour suivre Jésus, et puis il échoue à suivre Jésus, il retourne à la pêche, et même ça veut pas marcher, il sait plus faire, quoi. On dirait que tout s'acharne contre lui. Et puis vous connaissez l'histoire dans Jean 21. Il est là, découragé à la pêche, et puis Jésus est sur le rivage, et il a préparé du poisson, et puis il y a du feu, et du pain, et puis il y a la pêche miraculeuse, et quand ils arrivent au bord, enfin, Pierre se jette à l'eau, et puis quand il arrive là, tout est prêt. Et c'est là que Jésus lui dit, tu as réussi l'examen, tu as échoué sur toute la ligne, tu pourrais être pasteur. Et il lui confie l'église. Hein? C'est comme ça que ça se passe. C'est pour ça que ça m'amuse toujours quand ouais, je fais l'école biblique, je sors, j'ai réussi mes examens, je suis pasteur. Ah bon? Ben Pierre, ça s'est pas passé comme ça. Hein. Il a tout raté, et quand il a eu tout raté, même ce qu'il savait faire naturellement, même ça, il n'arrivait plus. Hein. Et puis Jésus lui dit, est-ce que tu m'aimes? Il peut même pas le regarder en face et lui dire oui. Il dit, ouais, tu sais, Seigneur, oui, hein. Et là, Jésus lui dit, prends soin de mon troupeau. Ouais. Hein? Là, c'était plus Seigneur, qui c'est le premier, qui c'est le plus grand, moi jusqu'au bout avec toi, toi et moi contre le monde entier. Et ce poisson, tu le veux cuit comment? Non, et Jésus revient toujours, Pierre, prends soin de mes brebis. Hein? Tu viens d'apprendre quelque chose. C'est comme ça que tu dois traiter les gens. Quand les gens vont bien, entre guillemets, quand ils pensent qu'ils ont atteint le but. Et c'est pas que Dieu, encore une fois, Dieu ne planifie pas nos échecs. Hein. Ça lui fait plaisir quand on réussit, comme des parents qui aiment voir leurs enfants réussir. Mais quand on échoue, il sait que c'est là qu'on est attentif. C'est là qu'on prête l'oreille. C'est là qu'on devient un petit peu humble. C'est là qu'on peut comprendre quelque chose. C'est en général là qu'on arrête, enfin on arrête, momentanément, de juger les autres. Je visitais une famille il y a quelque temps qui est pas de notre église, mais et puis qui ont 2 petits-enfants, puis un des 2 enfants est difficile, difficile, à mon avis, très facile, mais pour le standard de ses parents, un petit peu agité. Et puis, ils sont perturbés par ça. Parce qu'ils me disent, mais toute notre vie, avant qu'on ait des enfants, puis quand on avait la première où ça se passait bien, on disait ça, on le faisait, puis on voyait des enfants qui obéissaient pas, qui couraient partout, qui étaient actifs, on disait, mais quand même, ces parents, ils savent pas s'occuper de leurs enfants. S'ils leur disaient ce qu'il faut faire, ça marcherait. Et puis maintenant, on a un enfant, on fait tout ce qu'on pense qu'il faut faire, et ça marche pas. Et c'est un échec. Et c'est terrible parce que ils étaient en train de se retirer même de leur vie d'église, parce que je viens à l'église, mais je sens le regard, j'ai échoué en tant que parent, j'ai honte d'aller chercher mon fils à l'école, j'ai peur de... parce que dans les magasins, je n'ose pas le prendre. Hein. Et puis, on parlait de ça, et un peu d'expérience dans le domaine. C'est pour ça que je suis pasteur, hein. Tout ce qu'il y avait à rater, je l'ai raté déjà, pour vous. Et puis, leur dire, mais moi je trouve que c'est super, Dieu vous a fait un cadeau magnifique avec cet enfant. Vous allez devenir vraiment meilleur. Il dit, oui, c'est vrai que maintenant on juge moins les gens qui ont des enfants. Super. Mais imaginez qu'ils n'aient pas eu cet enfant-là, ça aurait été terrible. Hein. Il y a des gens, et on est tous comme ça. Dans les domaines où naturellement je suis doué, mais je juge les autres, je les détruis. Hein. On a tous des domaines, j'imagine, où c'est facile pour nous. Hein. Peut-être qu'il n'y en a pas beaucoup dans nos vies, mais il y en a toujours un ou deux où naturellement on sait faire. Hein. Et les gens, ils sont ordonnés naturellement. Ça n'est pas toujours. Quoi. Ils n'ont pas d'effort à faire. Ils sont toujours en train de plier, de ranger, d'aligner. C'est toujours, ils savent faire. C'est, hein. Moi, c'est une lutte permanente. J'essaie même plus. Non, j'essaie. Mais... Et puis, pour d'autres, c'est d'autres choses. On a tous nos domaines où, naturellement, c'est facile. Mais imaginez quelqu'un qui serait comme ça dans tous les domaines, à part Dieu. Mais ça serait quelqu'un d'insupportable, d'invivable. Il faut l'éloigner. Parce que, je juge tout le monde. Ah, ben lui, il le fait pas comme ça. Moi, de mon temps, et moi, et mes enfants. Vous connaissez ce genre de personnes? C'est une horreur. Hein. Mais avec, les échecs, entre guillemets. Et encore une fois, c'est pas un péché. Oui, c'est la conséquence, comme je dis, du péché dans l'être humain et dans le monde. Mais quand je dis à Dieu, Seigneur, j'aimerais arriver tous les jours à prendre du temps avec toi pour faire ça. Je suis sincère, enfin j'espère, quand je le dis, hein, j'aimerais vraiment que ça change, je vise cette chose-là, je le veux de tout mon cœur, et peu de temps après, je dis, zut, ça marche pas encore. Ben, on recommence, on serait. Hein. Mais ça m'apprend quelque chose. Et puis, on doit réaliser qu'en fait, le but de la vie chrétienne, c'est pas de pas faire d'erreur, c'est de vivre avec Dieu. Hein. C'est un peu comme si les gens pensaient que le but dans une vie de couple, c'est de pas se disputer. Évidemment que c'est mieux de pas se disputer. Mais le but d'une vie de couple, c'est pas de pas se disputer. C'est de vivre ensemble. Mon épouse est partie visiter notre fille qui va bientôt donner naissance à ma deuxième petite fille. Donc pendant 3 semaines, elle est pas là. Bon, on va pas se disputer. C'est génial. Oui, mais c'est pas ça la vie de couple. Ah, mais on est toujours mariés, il n'y a pas de problème, on sait, puis alors là, notre relation est parfaite dans ces 3 semaines. Non, c'est pas vrai. Hein. Notre relation, elle est parfaite quand on vit ensemble et que on vit ensemble. Et si on se dispute, ben on se dispute, on se demande pardon et on apprend et on revient et on fait des concessions. Et c'est comme ça dans notre vie chrétienne. On s'imagine que Dieu serait content si on n'avait jamais à le déranger, parce qu'on ferait tout bien sans lui. Que tout marcherait, que tout ce qu'il faut, on le ferait bien, et puis qu'une fois par semaine, on irait lui donner des nouvelles. Elle, dimanche matin, je vais au culte, et Seigneur, tu sais, cette semaine, je me suis vraiment bien débrouillé. J'ai même pas eu besoin de t'appeler, j'ai rien raté. J'ai tout fait bien. Tu peux être fier de moi, puis j'espère que les autres aussi, vous avez vu? Merci. Hein? Alors, à dimanche prochain, vous croyez que c'est ça que Dieu veut? Mais non, ce que Dieu veut, c'est vivre avec nous. Et bien sûr que Dieu aimerait que je vive avec lui quand ça va bien tout le temps, et puis quand ça va mal, seconde après seconde. Il aimerait, hein, moi aussi, mais je suis pas Dieu. Mais en réalité, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc c'est pour ça que mes échecs n'effraient pas Dieu, ils lui font pas peur, ça l'impressionne pas, ça le gêne pas, ça le dérange pas. Par contre, comment je vis mes échecs, hein? J'ai échoué, et puis vous savez, peut-être pas dans un domaine professionnel, hein, je précise ça, mais en général, quand on a échoué, à quoi ça sert de passer des jours et des jours? Et si j'avais fait comme ça, peut-être je viens, et pourquoi? Et c'est à cause, et s'il y avait lui, et s'il n'y avait pas. J'ai échoué, ok, je me relève, et puis je me repose la question, est-ce que c'est bien un but à atteindre? Est-ce que Dieu veut ça? Oui. Alors je vais encore partir dans cette direction. Et puis si je tombe, je me relèverai et je repartirai. Mais de s'arrêter pour essayer de comprendre pourquoi, alors vraiment, c'est sûrement au moment où, et alors là, j'aurais pas dû. C'est du temps perdu, tout ça. Par contre, quand j'échoue, de pas faire comme Adam, après la chute, hein. Ah, j'ai échoué. Zut, Dieu va être déçu. Oh, là, je l'ai. Hein, j'étais presque arrivé à convaincre Dieu que cette fois j'allais y arriver. Et j'ai échoué. Alors vite, qu'est-ce que je fais? Je pars me cacher. Plus question de réunion de prière, plus question de louer Dieu, plus question de parler, encore moins de témoigner aux autres. J'ai échoué. Et puis, ben, mes frères, pas trop non plus, parce que ça doit se voir ici que j'ai échoué. Alors j'aime mieux pas les voir. Puis en plus, si des fois je les rencontre et eux, aujourd'hui, ils me disent qu'ils ont réussi, ça va être encore pire. Donc je me retire. C'est pas ça que Dieu veut. Au contraire, j'échoue le plus vite possible. Je dois apprendre à retourner vers Dieu. Seigneur, c'est encore moi. Ouais, j'ai encore tombé de bicyclette, j'ai encore tordu la roue, et j'ai encore un bobo là. Il y a du mercurochrome. Et puis, ok, Dieu vient, il nous prend, il nous soigne, il répare la bicyclette. Je repars. Ouais, Seigneur, sans une main. Enfin, les dents. Et hop, on repart. Et c'est comme ça tout le temps. C'est comme ça tout le temps. Mais c'est pas grave, parce que je dois comprendre que échouer va pas faire que Dieu m'aime moins. En réalité, c'est quoi qui nous fait peur dans l'échec? Ben, si j'échoue, on m'accepte plus. Si j'échoue, on ne m'aime plus. Le point est toujours là, on en revient toujours à la même chose, c'est pas très compliqué. Si je réussis, on va m'aimer. Et si j'échoue, on va pas m'aimer. C'est tout. Mais c'est pas comme ça avec Dieu. C'est pas comme ça. Et encore une fois, Dieu veut pas que vous ratiez, c'est pas lui qui vous fait broncher, ah, tu as échoué, tu as vu. Non, pas du tout. Mais il nous aime pas moins quand on a échoué. Et peu importe que ce soit à cause de moi, à cause du voisin, à cause du temps, à cause du chien, à cause de ci, à cause de ça, de mon caractère, mais oui, mais c'est à cause de ce que j'ai vécu quand j'étais petit, parce que le nounours qui me regardait de travers. Ouais, c'est pas grave. Et je dis pas qu'il faut pas chercher à améliorer les choses, mais. Tu as échoué, mais je t'aime comme ça. Hein. Pierre, tu as fait quoi? Ben, je t'ai renié, hein, trois fois. Hein. Non, hein. Pierre, viens manger. Assieds-toi. Tiens, voilà, il y a du pain. Il y a du poisson. Le feu est prêt, c'est cuit. Cool, assieds-toi. Mange. Pierre, tu veux qu'on fasse quelque chose ensemble? Est-ce que tu voudrais t'occuper du troupeau? Oups, Seigneur, non, bah, pas maintenant. Attends que je réussisse un peu, que je fasse mes preuves, et après, on en reparle. Non, c'est maintenant. Allez, toi, suis-moi, viens. Hein. Pierre a pas changé pour autant. Hein. 10 minutes après, ou un quart d'heure après, Jésus est en train de parler avec Pierre, de lui expliquer des choses, et il se retourne, il voit Jean, et il veut savoir, mais lui, qu'est-ce qui va se passer? C'est toujours Pierre, c'est toujours le même, et quand on lit l'Épître aux Galates, après, il a continué de faire des bêtises énormes, il se cachait quand il n'était pas avec les Juifs, Paul a dû le reprendre, c'est resté Pierre jusqu'à la fin de sa vie, mais Dieu l'a utilisé. Et c'est pareil pour chacun d'entre nous. Il y a un magnifique verset dans 1 Jean 4, 18 et 19, enfin, c'est deux versets, 18 et 19. Je vous les lis. Dans l'amour, il n'y a pas de place pour la crainte, car l'amour véritable chasse toute crainte. En effet, la crainte suppose la perspective d'un châtiment. La crainte suppose la perspective d'un châtiment. J'ai peur d'échouer parce que si j'échoue, il y a la sanction. On m'aime plus. On me rejette. On me met avec les nuls, avec les ratés, avec ceux qui arrivent pas, avec les losers, avec les has-been, avec ci, avec ça. Hein. Donc, c'est cette crainte-là qui fait que j'ai peur. Mais l'amour chasse la crainte. Hein. L'amour de celui qui vit dans la crainte n'est pas encore parvenu à sa pleine maturité. Ben, cette pleine maturité, on y arrivera quand on sera comme lui. Donc, c'est pas encore. Mais on est en route vers ça. Quant à nous, nous aimons Dieu, parce qu'il nous a aimé le premier. Ah. c'est toujours lui qui prend l'initiative. C'est lui qui commence, c'est lui qui vient, c'est lui qui revient, c'est lui qui nous aime. Et je dois apprendre à gérer mes échecs sans avoir cette peur panique, on va plus m'aimer. Alors c'est vrai que dans le monde des êtres humains, ça se passe. Hein. Si j'ai du succès, on m'apprécie. Si j'échoue, on m'apprécie moins. Ça, c'est sûr. Mais c'est pas comme ça avec Dieu, et ça devrait pas être comme ça entre nous. On devrait apprendre justement à s'accepter d'abord soi-même, sinon on peut pas le faire pour les autres, et puis à le faire aussi pour les autres, réellement, sans condescendance. Hein. Pas ce « Ah, tu as échoué, c'est pas grave », tu sais, de bien haut. Hein. On le sait que tu es minable, on t'aime quand même. Hein. Non, c'est pas ça. C'est « On est pareil ». Oui, tu arrives pas à faire ça, je sais, c'est dur pour toi. Moi, j'ai pas de difficulté dans ce domaine, alors j'ai du mal à comprendre. Par contre, toi, tu fais ça sans difficulté, moi, ça m'est impossible. C'est comme ça. Mais peut-être, avec nos faiblesses, appuyées les unes aux autres, on peut faire quelque chose. Hein. Je sais pas pourquoi ça me traverse, mais je fais une parenthèse, un peu de publicité. Il y a un très très beau roman non chrétien, mais magnifique là-dessus, sur des faiblesses qui s'ajoutent pour créer une force. J'oublie même le titre, c'est très grave ce matin. Le livre d'Anna Gavalda, Ensemble c'est tout. Hein. C'est une très belle histoire avec que des gens qui sont incapables de s'en sortir. Il y a un gars qui bégaye, qui arrive pas, qui a peur, une phobie des gens. Il y a une dame qui est âgée, qui arrive plus à vivre toute seule. Il y a que des gens avec des difficultés. Et finalement, par le hasard de la vie, toutes ces difficultés mises ensemble font qu'ils vont arriver à vivre. Je trouvais ça magnifique comme parabole de ce que Dieu veut pour nous. Et l'Église devrait être ça. Hein. Moi, il me manque une jambe, l'autre, il me manque un bras, et lui, il boite un peu là, et l'autre, il tient pas là. Et lui... Mais au lieu de « t'as vu, il a pas de jambe, moi j'en ai deux. Ah, lui, il manque un bras, moi j'en ai deux. » Non. Ben, si on se met ensemble, on va arriver un peu mieux à aller de l'avant. Hein. Et puis, bien sûr, ça commence par Dieu et moi, parce que je traite les gens comme je me traite, bien sûr. Hein. Et les gens qui sont toujours en colère avec les autres, c'est des gens qui vivent avec une grande colère vers eux-mêmes, toujours. Hein. Les gens qui supportent pas les échecs chez les autres, c'est parce que je le supporte pas chez moi. Enfin, on est tous comme ça. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on doit découvrir que Dieu nous aime. Et puis, que bien sûr, le but, c'est d'aller de l'avant. Bien sûr, c'est de fixer des buts et d'y aller. Mais si j'échoue en y allant, ben, qu'est-ce que je fais? Plus de 7 fois, 77 fois par jour, c'est pas grave. Dieu me pardonne. Et je me lève et je dis, ben ouais, j'ai encore échoué. C'est pas que, je le prends pas, c'est pas une façon de prendre les choses à la légère. Hein. C'est pas que, oh, ben c'est pas grave, j'ai encore, non. Mais, si j'avais pu ne pas le faire, je l'aurais pas fait. Hein. Je pense que la plupart d'entre nous, on se lève pas le matin en se disant, qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui pour pourrir ma vie, pour pécher, pour être désagréable, pour tout rater, pour faire du tort aux gens que j'aime. Je crois pas qu'on se lève en disant ça. Hein. Mais on se fait avoir, on oublie, on fait pas attention, on n'est pas prudent, on n'a pas vu, on n'a pas fait ce qu'il fallait. Et d'un coup, on serait... Ah, nos yeux s'ouvrent et mince, j'ai encore raté ça. Ben ouais, ouais, mais c'est pas la première fois. Ben ouais. Et ça va être comme ça toujours, peut-être. Mais si ça m'amène à Dieu, alors c'est une chose positive. Et je voudrais juste rappeler un petit point. Il y a une autre catégorie de gens... C'est les gens qui, par peur de l'échec, ne font rien. Ils échouent jamais, ces gens-là. C'est sûr, ils font rien. Hein? J'ai tellement peur des relations que je rencontre personne. J'ai tellement peur de rater mon mariage que j'entame pas une relation. J'ai tellement peur de pas être assez bon que je commence pas. J'ai tellement peur de pas être parfait que je fais pas. Et c'est triste. Hein? Ça montre juste qu'on a très peu de confiance dans l'amour de Dieu. Et c'est pas, je me moque pas de, on est tous comme ça dans certains domaines déjà, hein. Mais c'est quelque chose dont on doit guérir. Parce que le but, c'est pas de jamais tomber, c'est de vivre. Hein. Le but, c'est pas de rien rater, c'est d'aller de l'avant. Et puis, comme j'ai dit au début, je laisse pas quelqu'un d'autre fixer les buts pour ma vie. Je m'en moque qu'à mon époque, dans ma culture et dans mon pays, tout le monde me dise que pour avoir réussi sa vie, il faut avoir fait ça. Ça m'intéresse pas. Enfin, si, je veux l'écouter. Mais moi, je veux savoir, pour moi, parce que je suis unique, et chacun de nous l'est, devant Dieu, avec sa parole qu'il nous a laissée, avec l'intelligence qu'il nous donne, quels sont mes buts dans la vie? Et puis, je vais viser ça et je vais y aller. Et en y allant, je vais tomber et tomber et tomber et tomber. C'est pas grave, je me relève et je continue. Mais j'aime mieux mourir en essayant d'y aller que rester sur ma chaise à regarder les autres qui tombent. Oh, il est encore tombé. Oh, il est encore tombé. Évidemment, je tombe pas. Je suis pas en mouvement, je vais nulle part. Je suis plus un être humain, je suis un concombre. Hein. Je suis là et je reste là. Je bouge pas. Et puis, par contre, je peux regarder les autres. Hein. Ah ouais, lui, il a encore raté ça. Hein. Oh, lui, qu'est-ce qu'il fait mal, ça hein. Puis ça, ouh, il le fait moins bien que lui. Hein. Ça sert à quoi? À rien. Si moi, je peux faire quelque chose pour que ça aille mieux, il faut que je le fasse. Sinon, si on n'y peut rien, on n'y peut rien. Hein. Par contre, pour moi, tant pis si je tombe, tant pis si... Oui, mais après, on va dire, il a essayé, il n'y est pas arrivé. Ben, c'est mieux que de dire, il n'a rien fait. De toute façon, c'est pas important. Donc, je relis ces deux versets. Dans l'amour, il n'y a pas de place pour la crainte, car l'amour véritable chasse toute crainte. En effet, la crainte suppose la perspective d'un châtiment. L'amour de celui qui vit dans la crainte n'est pas encore parvenu à sa pleine maturité. Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Seigneur, nous te demandons que, concrètement, dans chacune de nos vies relationnelles, dans nos vies émotionnelles, dans nos vies spirituel, dans notre vie professionnelle aussi, dans tous les aspects de nos vies, tu nous apprennes à faire face à nos échecs avec toi, Seigneur. À avoir le courage de se relever, de t'appeler au secours, de crier à toi, de se tourner vers toi, et puis de repartir. Merci parce que tu as supprimé le châtiment, tu l'as pris sur toi, et tu nous accueilles comme nous sommes. Nous devons simplement reconnaître ce que nous avons fait et nous tourner vers toi. Merci pour cette libération, pour cette liberté. Aide-nous à la vivre au quotidien, aide-nous à la vivre dans chaque aspect de nos vies. Et merci pour aujourd'hui, Seigneur. Amen.